Et je vous remercie en tout cas de prier pour nous et de cette possibilité encore de partager l'évangile ensemble ce matin. Et merci en tout cas pour le commencement de ce culte qui a été vraiment très, très riche pour moi. Je vous invite à lire des textes que vous connaissez. Se trouve dans l'épître aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 4, verset 25. Et nous lirons tout à l'heure Jacques chapitre 1, verset 19 et Matthieu chapitre 5, verset 21. Et voilà ce que dit l'apôtre Paul. Rejetez donc le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous faisons partie les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Et ne laissez pas de place au diable. Que le voleur ne vole plus, qu'il se donne plutôt de la peine à travailler honnêtement de ses propres mains, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin, et qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine. Mais s'il en est besoin, une bonne parole, qui soit constructive et qui communique une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas l'Esprit Saint de Dieu par lequel vous avez été scellés pour un jour de rédemption. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute malfaisance soit enlevée du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, pleins d'une tendre bienveillance, et faites-vous grâce, comme Dieu vous a fait grâce dans le Christ. Jacques, chapitre 1, verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler et lent à la colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et enfin, dans Matthieu, au chapitre 5, verset 21, et c'est notre Seigneur qui parle. Vous avez entendu, il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre sera passible du jugement. Mais moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Celui qui traitera son frère de raca sera passible du Sanhédrin. Et celui qui traitera son frère de fou sera passible de la géhenne de feu. Des exhortations vigoureuses. Alors, raca, c'est un peu l'idée de quelqu'un de creux, de vide. Alors, vous l'aurez certainement compris, c'est de la colère dont j'aimerais un peu parler ce matin. Alors, le choix de ce thème peut surprendre, surtout par rapport à un week-end consacré à la famille, un week-end consacré à nos relations de parents, entre enfants. Mais vous le savez, je crois qu'il ne faut pas que nous nous voilions la face. Nos vies de famille sont parfois le lieu de colère et de ressentiment non exprimé. Et qu'il arrive parfois que nous vivions les uns avec les autres, parfois également dans la communauté, avec des colères non exprimées. Des colères véritables que nous ressentons vraiment comme des choses qui nous atteignent profondément et dont nous ne savons pas souvent quoi faire. Et souvent, le plus souvent, je dirais, le choix que nous faisons, c'est plutôt de rentrer les choses, plutôt de mettre un voile pieux sur les ressentiments que nous pouvons ressentir. Alors j'aurais pu lire également ce que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 13, quand il nous dit que l'amour ne s'irrite pas. Alors c'est intéressant, parce que vous avez noté que les trois textes que j'ai lus semblent, en tout cas dans une première lecture, semblent nous dire des choses différentes sur la gestion de nos colères. Entre Jésus qui nous dit « Ne vous mettez pas en colère » parce que, si je comprends ce texte en tout cas, la colère est un peu comme l'antichambre du meurtre. Hein. Quand je suis vraiment en colère, vraiment, c'est parfois des pensées meurtrières qui sortent de mon cœur. Et je comprends alors que le Seigneur mette sur le même plan eh bien, celui qui est meurtrier et puis celui qui entretient sa colère. Et puis l'apôtre Paul qui nous dit si vous vous mettez en colère, alors que le texte original est à l'impératif. Le texte original dit mettez-vous en colère et ne péchez pas. Mettez-vous en colère. C'est pas seulement l'hypothèse que ça peut arriver, ce n'est pas seulement la supposition que nous pourrions être en colère, non, c'est une invitation sobre, étonnante, à nous mettre en colère. Et je me souviens l'enseignement extraordinaire que Jacques Buchold, doyen de la faculté de Vaux-sur-Seine, nous a donné sur ces exhortations étonnantes. Où le Seigneur prend quand même des risques, si dans sa parole, il nous invite à reconnaître nos colères, à exprimer nos colères. Et puis Jacques, qui nous invite à la modération, qui nous invite à la patience. Et qui nous invite à la patience par rapport à nos colères, parce que tout comme Dieu, nous dit-il, est lent du nez, littéralement, lent à la colère, lent du nez. Parce que vous savez, quand la colère me monte en moi, mon nez traduit les sentiments très forts que je ressens. Eh bien, Dieu qui est lent du nez, eh bien, nous invite, nous aussi, dans nos rapports, les uns avec les autres, dans la famille, avec nos parents, avec nos beaux-parents, avec la belle-mère aussi, mais dans le contexte de nos relations quotidiennes. Eh bien, Jacques nous invite à cette patience contenue. Parce que la colère de l'homme, nous dit-il, ne réalise pas la justice de Dieu. Alors ne vous mettez pas en colère, mettez-vous en colère, soyez lent à la colère. La parole de Dieu n'est toujours surprenante dans la manière dont elle peut nous inviter à mettre ensemble des choses qui peuvent sembler contradictoires. Mais j'aurais pu lire également des psaumes de colère. Alors je n'ose pas lire des psaumes de colère le dimanche matin dans l'église. Vous savez, ces psaumes 109, ces psaumes 58, 69, 83, qui sont véritablement des mines antipersonnelles dans une... comment dirais-je, dans un paysage champêtre, pastoral. Quand nous pensons au psaume, nous pensons surtout au psaume 23, Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans des verts pâturages. Et sa houlette et son bâton me rassurent. Et puis quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je suis apaisé. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Vous savez, quand je lis ce psaume à mes collègues juifs, ils en ont les poils qui se dressent sur leurs bras. Et ils me disent, mais comment toi, un païen, ose dire des choses pareilles? Où tu as appris ça, me disent-ils. Eh bien, à l'église, j'ai appris ça. Eh bien, à côté de ces psaumes champêtres, apaisés, apaisants, il y a véritablement des mines antipersonnelles, de gens terriblement en colère, de gens qui se présentent comme des accusés et qui font appel à Dieu, des gens qui se sentent comme des gens menacés et qui font appel à Dieu, des gens qui sentent vraiment que la vie qu'ils mènent est une vie de tension, de danger. Un monde dur pour les tendres que nous sommes, et qui appelle Dieu au secours, et qui là, à Dieu, disent des choses qu'on n'ose pas lire le dimanche matin à l'église. Parce que c'est terriblement agressif, c'est terriblement violent. Et en lisant ces psaumes, que vous lirez chez vous, hein, 109, 58, 69, 83, je ne les lis pas parce que peut-être que parmi nous, il y a des gens qui ne sont pas habitués à nos rassemblements. Et puis si tout d'un coup, on se met à lire des psaumes aussi vindicatifs, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'on enseigne dans cette église? Vous comprenez ma réserve? Mais prenez le temps de lire ces psaumes. Et quand je lis ces psaumes, je me dis, mon Dieu, que c'est beau un homme en colère. Une femme en colère qui a le courage de sortir des méandres de son cœur, de sortir des chambres sombres du cœur, vous savez, ces endroits où nous enfouissons, tous les ressentiments, toutes les choses non dites, toutes les colères rentrées. Et ces psaumes qui se présentent véritablement comme une véritable thérapie spirituelle où on ose dire à Dieu tout ce qu'il y a là dans le cœur et qu'on n'ose pas exprimer autrement. Et quel courage il faut pour pouvoir exprimer ses colères rentrées. Quelle confiance en Dieu il faut avoir pour penser, pour être sûr que Dieu peut tout entendre. Et pas seulement nos prières spirituellement correctes. Et dans nos églises, il y a beaucoup de prières spirituellement correct, mais également ces cris de cœur blessé, de cœur accusé, de cœur souffrant, parce que la vie avec les autres n'est pas simple, parce que nous sommes parfois nous-mêmes une cause de problème pour les autres, et les autres sont aussi une cause de problème pour nous. Et que malheureusement, dans nos rapports, nous préférons trop souvent mettre un tapis sur ce qui constitue vraiment parfois le cœur de notre existence. Alors je crois que c'est important de se faire une bonne idée de la colère et qu'est-ce que nous devons faire de nos colères. Alors d'abord, un mot d'explication sur le texte de Matthieu et le texte de Éphésiens. Je crois que le texte d'Éphésiens me permet de dire, nous permet de reconnaître qu'il y a des colères qui sont saines, il y a des colères qui sont justes, il y a des colères qui sont souhaitables, il y a des colères qui sont nécessaires, quand elles sont pour nous l'occasion d'exprimer nos souffrances. Quand elles sont pour nous l'occasion de mettre en lumière des situations d'injustice. Alors, pas l'injustice d'une manière virtuelle, hein, mais également ces situations où la vérité nous semble bafouée, nous semble pas respectée. Et il me semble, quand l'injustice est là, quand nous sommes au cœur de situations qui sont vraiment le reflet et l'expression de comportements odieux, de comportements injustes, quand nous sommes là au cœur de situations où la vérité est piétinée, eh bien, il me semble sain et il me semble spirituel et humain en même temps de savoir exprimer le ressentiment que cela génère en nous. Et je crois sincèrement que parfois dans nos relations les uns avec les autres, et hier après-midi notamment, comme j'ai dit ce matin, j'ai cru discerner ci et là, ça et là, vraiment des ressentiments et dont on ne sait pas souvent quoi faire, eh bien, je pense que, dans un premier temps, c'est important que nous reconnaissions nos colères, que nous sachions mettre des mots sur ces colères, que nous sachions les reconnaître pour ce qu'elles sont, que nous sachions reconnaître les émotions et les ressentiments très forts qu'elles peuvent générer dans notre vie. Que nous sachions reconnaître à quel point, quand la colère est là, nos relations ne peuvent pas être des relations normales, des relations non crispées. Et il me semble que Paul, aux Éphésiens, nous invite véritablement à admettre cela. D'où son invitation à non seulement l'admettre, mais à exprimer, à reconnaître sa colère, à la dire. Alors que dans Matthieu, si on lit bien le contexte, il s'agit de la colère vaine, de la colère injuste, de la colère haineuse, de la colère malicieuse, la colère vengeresse. En fait, la colère sans raison. La colère dont l'objectif est véritablement de faire du mal à l'autre. Ou qui va être, de toute façon, dans la manière dont elle va être exprimée, la manière dont elle va être vécue, la manière dont elle va être intégrée à nos relations, va être dommageable pour les autres. Et c'est pour ça, vous l'avez noté dans Éphésiens, l'apôtre Paul nous dit dans un premier temps « Mettez-vous en colère ». Mais ensuite, au verset 29, il nous invite à ce que aucune parole malsaine ne sorte de notre bouche. Il nous invite encore à faire tout ce qu'il est possible, même dans nos colères, parce que nous sommes membres les uns des autres et que nous sommes quand même appelés à nous parler avec vérité les uns les autres. Eh bien, dans nos colères, à faire en sorte que de bonnes paroles puisse sortir de nos bouches et bonnes paroles constructives qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Et avant de nous dire d'extirper de nos vies l'amertume, l'animosité, la colère, la clameur, les calomnies, les malfaisances, eh bien, il nous invite à ne pas attrister l'Esprit Saint de Dieu par toutes ces attitudes que nous pouvons avoir et qui peuvent être autant de mauvaises manières de gérer nos colères et qui se disent toujours par une mauvaise manière de gérer nos relations. Surtout en famille. Alors j'aime beaucoup ce que Luther a dit de la colère juste. Alors toujours avec ce sens de la précision et du condensé. Luther disait, la colère d'amour, parle même de colère d'amour, c'est celle qui ne veut de mal à personne. Colère d'amour pour le pécheur, mais hostile au péché. Alors une fois que l'on a dit cela, comment dans nos vies faire en sorte que l'eau colère ne soit pas comme autant de mines antipersonnelles dans nos relations, moyen malheureux d'attrister l'esprit, tout en étant absolument dans notre bon droit quand nous parlons avec vérité à notre prochain, parce que nous faisons partie les uns des autres, et que parce que nous sommes membres les uns des autres, eh bien nous pouvons aussi exprimer nos colères. Comment faire la part des choses? Alors j'aimerais vous proposer quelques principes tout simples, que je ne présente pas comme des règles. Alors ceux qui étaient là avec moi depuis vendredi ont noté les différences que je fais entre règles et principes. Une règle, c'est rigide. Et ça ne colle pas avec l'idée que je me fais de la grâce. Un principe, c'est quelque chose d'important, de prioritaire, de structurant, qui va nous permettre de traduire dans le concret des choses qui passent d'abord par notre intelligence, qui passent d'abord par notre esprit, et que le Saint-Esprit peut vraiment féconder en nous pour une vie plus féconde. Donc, quelques principes qui vont nous permettre de gérer nos colères peut-être différemment. Alors, le premier principe, je crois que nous devons avoir l'honnêteté face à la colère, d'admettre qu'il y a des bonnes colères et qu'il y a des mauvaises colères. L'honnêteté intellectuelle pour l'admettre, l'honnêteté spirituelle pour ne pas nous fourvoyer dans des colères injustes sous prétexte que l'apôtre Paul nous invite à nous mettre en colère. Donc, face à nos colères, que ce soit ces colères rentrées, que ce soit ces colères enfouies dans les chambres sombres de notre cœur, ou que ce soit ces colères fulgurantes qui parfois montent de nos cœurs, avoir la lucidité. Et le Seigneur peut nous venir en aide pour ça. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut, certainement par nos simples efforts, avoir la lucidité et l'honnêteté de reconnaître qu'il y a de bonnes colères et de mauvaises colères. Et que nous avons intérêt de ne pas confondre l'une et l'autre. Et je pense que ça, c'est un travail que nous faisons individuellement, que nous faisons dans le secret de notre relation avec Dieu, mais que nous faisons aussi avec le secours de la communauté. Un secours concret, pratique, où nous pouvons, les uns et les autres, eh bien, reconnaître ces colères qui sont là et ne pas faire comme si elles n'étaient pas là. Et apprendre en tout cas à discerner si elles sont justes ou injustes. Si on est dans Matthieu 5 ou si on est dans Éphésiens 4. Et ça, c'est vraiment, à mes yeux, la première règle d'or. Et cette règle d'or, ce principe d'or, pardonnez-moi, va bien sûr nous amener plus loin. Parce qu'une fois qu'on a dit ça, on n'a pas, semble-t-il, beaucoup avancé. Et il me semble que ces textes que nous avons lus nous donnent quelques indices pour nous aider à reconnaître nos colères et à les traiter d'une manière juste. Fondé sur le principe qu'une colère que l'on ne traite pas finit par nous maltraiter. Et là, j'en viens au principe 2. Et c'est l'apôtre Jacques qui nous donne un élément, là, et complété par l'apôtre Paul. Nos colères, dit-il, doivent être lentes à monter et promptes à redescendre. Lentes à monter, Jacques chapitre 1, verset 19. Vous pouvez imaginer la scène, hein, si je mettais en abscisse et en ordonnée ce que l'apôtre dit là, avec en axe horizontal le temps et en axe vertical l'intensité, vous voyez, ça monte très doucement, parce que nous sommes lents du nez et que nous avons conscience que vivre les uns avec les autres, ce n'est pas simple, et qu'il nous faut avoir de la patience pour nous porter les uns les autres. Donc, que la colère soit lente à monter, et puis quand la colère est là, quand elle est nécessaire, quand elle est juste et souhaitable, mettez-vous en colère, mais que la colère soit prompte à redescendre. Lente à monter, prompte à redescendre. C'est simple, hein? Mais c'est un peu compliqué parce qu'on doit inverser les courbes chez nous. Nos colères sont souvent fulgurantes, elles montent vraiment très très rapidement, très vite, et elles sont tellement lentes à descendre. Et bien voilà la première idée, le premier indice que nous avons. Nos colères doivent être encadrées, insérées dans ces deux frontières, lente à monter, prompte à redescendre. Mettons-nous en colère quand elle est souhaitable et juste, mais ne restons pas en colère, nous dit Paul aux Éphésiens. Et c'est cela l'irritation. L'irritation, c'est quand on entretient sa colère, quand on la nourrit, quand on la fait vivre en nous, quand on reste en colère. Et il me semble que l'exhortation à se mettre en colère n'est pas une exhortation à devenir agressif ou violent, et encore moins de trépigner de rage, bien que ça peut arriver, hein. Se mettre en colère, c'est d'abord accepter de regarder en face sa souffrance, la reconnaître et la mettre en mots. Et au travers de l'invitation à la colère, je vois vraiment une invitation à mettre des mots, M-O-T-S, sur nos mots, M-A-U-X. Et se mettre en colère, c'est admettre que j'ai mal, que l'on a mal. Et que souvent, les autres sont la cause de ce mal. Se mettre en colère, c'est pouvoir dire à l'autre, j'ai mal. Ce que tu as dit, ce que tu as fait, ce que tu as pensé me blesse. Et je ne veux pas entendre « Ah, que tu es sensible, ah, que tu es fragile, ah, que tu es douillé, ah, que tu es ci, ah, que tu es ça. » Non, ce que tu as dit, ce que tu as fait me fait mal. Alors tu peux penser que j'ai un seuil à l'offense qui est très bas. Mais c'est quand même ma souffrance qui est là et dont tu dois aussi tenir compte. Si ton frère a péché contre toi, nous dit Jésus, va et reprends-le. Ne laisse pas un ressentiment devenir irritation et que tu entretiens parce que tu n'oses pas dire aux autres que ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont pensé te blesse profondément. Et vous savez, dans le travail que je fais à Mission Vie et Famille, dans le bureau que nous avons à Bagneux, l'aide à la relation souvent se limite à dire aux gens « Allez, on va se mettre en colère ensemble ». parce que ce n'est pas possible que tu traînes cette colère depuis tant d'années. Et que cette colère a été enfouie bien soigneusement dans les chambres sombres du cœur. Et qu'est-ce que tu en fais maintenant ? Alors, ce n'est pas à moi que tu vas dire ta colère. Moi, je ne peux rien pour ta colère. Dieu est capable d'entendre tous nos mots. Et je crois que cette reconnaissance vaut toujours mieux que le voile pieux que parfois nous mettons sur nos ressentiments. Et nous préférons nous taire alors que nous devrions nous dire. Que vos colères soient lentes à monter. Soyez lents du nez, patients, prompts à redescendre, parce que ce n'est pas juste, ce n'est pas souhaitable de rester en colère. Et j'aime beaucoup ce que l'apôtre Paul dit, mettez-vous en colère et ne péchez pas. Il est possible de se mettre en colère sans pécher. C'est intéressant comme idée. Alors que nous sommes plutôt suspicieux à l'égard de nos colères. Donc voilà le premier principe, les deux frontières, lente, prompte. Reconnaissez, traitez. Ne laissez pas vos colères vous maltraiter, parce qu'elles ne sont pas traitées intelligemment. Le troisième principe d'or que je vois, c'est un peu ce que nous dit aussi Paul aux Éphésiens et que la Bible nous dit dans tellement d'histoires de gens qu'elle nous présente. L'idée que dans nos colères, dans nos explications, dans les mots parfois virils que l'on va s'échanger, dans la souriante lumière de Dieu, ne dépassons, ne franchissons jamais le seuil de vulnérabilité de l'autre. Parce que chacun de nous, nous possédons une zone de vulnérabilité, une zone de faiblesse, une zone où l'on est particulièrement sensible, fragile, sans défense. C'est notre tendon d'Achille. Et cette sensibilité particulière peut être liée à un problème dans notre famille. Peut être liée à un problème personnel, notre niveau d'études, les antécédents familiaux, le statut social. Cette vulnérabilité peut être liée à un détail, à un problème physique. Un nez trop long, un poids excessif, des oreilles peut-être décollées. Peut-être lié également à notre histoire propre, notre histoire familiale. Imaginez que dans ma famille, il y ait eu un cas de maladie mentale. Et vous savez comment la maladie mentale profile, configure l'esprit de famille. Combien c'est dur à gérer quand dans la famille, il y a un membre de la famille qui est particulièrement touché et toute l'histoire de la famille se construit autour de cette maladie mentale. Et ça, ça crée des faiblesses. Ça crée des vulnérabilités. Eh bien, frères et sœurs, mettons-nous en colère avec une règle et un principe d'or. Ne jamais dépasser le seuil de faiblesse des autres, le seuil de sensibilité des autres. Le seuil de vulnérabilité de l'autre. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul nous invite à rester toujours dans un dialogue constructif, où on n'attriste pas l'esprit par ce que l'on dit aux autres, où on n'est pas dans la calomnie, où on n'est pas dans la malfaisance, on n'est pas dans la clameur, on n'est pas dans la calomnie méchante. Et nous avons tous un seuil de sensibilité. Mettons-nous en colère en nous engageant solennellement devant Dieu, parce que c'est vraiment de cet ordre, à ne jamais dépasser ce seuil si nous n'y sommes pas autorisés. Parce que généralement, quand le seuil de vulnérabilité d'une personne est franchi, notamment au travers de la colère, mauvaise colère, il se passe deux choses. La première, ce sont les coups. Et je reçois des couples chrétiens, membres de conseils d'église, qui, dans leur dialogue, dans leur relation, en sont venus au coup. Et généralement, les coups sont là quand, dans la relation, le seuil a été dépassé. Et quand le seuil est dépassé, plus rien n'est stable. On est en grand danger. Et il arrive parfois que dans la famille, entre couples, entre parents et beaux-enfants, entre gendres et parents et beaux-parents, parfois même dans l'église, on franchisse le seuil de vulnérabilité de l'autre en toute légèreté. Et quand on franchit ce seuil, donc, première réaction, la violence, les coups physiques ne sont pas loin, et je l'atteste malheureusement, même chez les chrétiens. Et la deuxième réaction, c'est le recroquevillement sur soi. Vous savez, quelqu'un nous blesse là où on est sensible, on se rétracte, on se replie, on s'enferme dans sa tanière et on lèche ses plaies. Et on rumine. Donc, disputons-nous, mettons-nous en colère, virilement, mais loyalement, en ne dépassant jamais ce seuil de l'autre. Alors, ce qui va nous emmener certainement à des dialogues intenses et profonds dans nos relations, surtout en famille. Est-ce que moi, je connais le seuil de vulnérabilité de ma femme, de mes enfants, des membres de l'Église ? Vous savez, dans les week-ends de fiancés que nous faisons, nous invitons les jeunes couples, alors que rien n'est joué, à discuter sur leur seuil de vulnérabilité. Et une fois qu'on sait ce seuil de vulnérabilité, on s'engage solennellement à ne pas le franchir. Alors quand je dis à ne pas le franchir, sans autorisation, quelqu'un qui a son seuil de vulnérabilité connu et appréhendé peut m'inviter à le rejoindre dans ce seuil, pour y voir plus clair, pour être aidé, pour sortir d'une situation difficile. Mais je ne franchis pas ce seuil si je ne suis pas invité. Parce que les colères qui résultent du franchissement non autorisé sont toujours des colères terribles. Le troisième principe que je vois et que je trouve très intéressant dans Éphésiens, c'est cette idée d'une date de péremption dans nos conflits. Est-ce que vous avez noté où est la date de péremption dans Éphésiens 4 ? Le coucher du soleil. Alors, c'est quoi la date de péremption sur un litre de lait ? Passé la date, on ne consomme plus. Parce que ça risque de générer des problèmes. Date de péremption dans Éphésiens 4, jusqu'au soir. Est-ce que ça veut dire que jusqu'au soir, j'ai le droit de ruminer ? Est-ce que ça veut dire que jusqu'au soir, j'ai le droit de bouder ? De réfléchir à cette colère qui est là ? En tout cas, moi, je trouve extraordinaire la sobriété de la parole de Dieu qui nous invite à ne pas chercher à traiter tout de suite. Peut-être qu'avec ma colère, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin du dialogue interne, j'ai besoin certainement aussi de la rumination, j'ai besoin du contact avec Dieu, j'ai besoin de la prière, j'ai besoin de me retirer. Et il me semble que cette invitation-là est une invitation à une reconnaissance de qui nous sommes. Pas traiter immédiatement, parce qu'il ne faut pas faire de court-circuit dans les colères que l'on a. Il faut prendre le temps de faire les choses bien. L'Ecclésiaste nous dit qu'il y a un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Et le plus important dans nos relations, c'est que nous ne soyons pas décalés. Si moi j'aspire démesurément à la paix et que mon conjoint est encore dans le temps de la guerre, parce que ce que j'ai fait, ce que j'ai dit est vraiment trop dur pour lui à supporter. Et voilà, la date de péremption, c'est jusqu'au soir, réfléchissez, pensez, priez, faites le point. C'est peut-être dans ce laps de temps qu'on va faire la distinction entre bonne colère, mauvaise colère, où on ne va pas prendre des vessies pour des lanternes. Mais le soir arrivé, traité. C'est peut-être après une négociation, c'est peut-être après une discussion, c'est peut-être après un dialogue, mais traité. Alors des gens me disent, mais est-ce que tu penses que jusqu'au soir c'est un symbole? Est-ce que ça peut être une semaine, un mois, deux mois de gestion personnelle et intrapersonnelle de sa colère? Je pense que plus on prend de temps à gérer, à traiter, et plus on prend des risques. Donc, ce principe m'emmène à réfléchir sérieusement à qu'est-ce que je peux accepter et quel temps on va se donner ensemble. Ça peut vous sembler scolaire, hein, mais quel temps on va se donner pour traiter le problème à fond et ne pas laisser ce problème transformer nos relations en ressentiments que l'on enfouit. Et j'ai envie de dire qu'après la date de péremption, si on n'a pas traité, c'est réglé. Vous voyez ce que je veux dire? On se met d'accord, une date de péremption dans nos relations, dans nos conflits, dans nos colères, et si au bout du temps de péremption, on n'est pas venu avec ce problème pour le traiter, on considère que c'est réglé. Alors les gens me disent, mais Gérard, on ne peut pas faire ça. Donc si on ne peut pas faire ça, il faut régler le problème. Et en parler, et le dire, et mettre des mots, et s'expliquer. Et que le soir venant, on puisse rentrer paisiblement dans la paix. Et le dernier principe que je vois, et qui est directement lié à cette idée de date de péremption, c'est l'idée de placard dans le squelette. De squelette dans le placard, pardon. Vous savez, je suis né à Madagascar, et à Madagascar, sur les hauts plateaux du côté d'Antsirabe, à la Toussaint, on sort les morts des tombes pour changer le linceul. Donc des morts qui sont morts depuis un an, deux ans, trois ans. Et l'idée, c'est de dire à la mort, eh bien, tu vois, on est plus fort que toi. Hein. Et on est tellement plus fort qu'on sort les morts des tombeaux. Et puis que pendant le week-end, ils vivent avec nous. On est à un mariage, ils sont dans un coin. On est à un repas de famille, ils sont à une place avec les bandelettes, avec le linceul. On se promène à la campagne, ils sont sur le toit. Alors vous avez des corps, des cadavres qui sont portés sur les voitures. Et on tripote le mort. Et le dimanche soir, on remet tout le monde à sa place. Et le lundi matin, on va voir le médecin. Parce que les pathologies qui sont liées à ce tripotage de mort, je ne fais pas de dessin. Et bien, je crois que dans nos vies de relations, dans ces colères rentrées, il y a beaucoup de cadavres dans les placards. Dans nos vies. Vous savez, la belle-mère qui nous a fait toute une histoire il y a trois ans. La belle-fille qui a été insupportable à table et qui a manqué de respect au beau-père. Le gendre qui n'a aucun respect pour les règles de la famille. Les règles de la famille. Vous savez, le vin que l'on teinte un peu d'eau parce qu'on ne peut pas boire du vin sans eau. le pain rassis qu'on jette parce qu'on ne mange pas du pain rassis, ou qu'on mange du pain rassis avant de manger le pain frais, les patins qu'il faut prendre avant de rentrer dans la maison. Et puis le gendre qui n'a pas vraiment été moulé au moule de la famille, eh bien il cause des problèmes, et puis on amoncelle, et puis on met les cadavres dans le placard. Et puis un beau matin, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans après, on ouvre le placard et le cadavre dégringole. Parce qu'il n'y a pas eu de péremption, parce qu'il n'y a pas eu de traitance des choses, et qu'on laisse nos relations être maltraitées par ces ressentiments cachés. Donc, il n'y a pas d'autre alternative. Il nous faut, dans une relation intelligente, traiter nos colères et ne pas les laisser nous blesser encore plus. Et je voudrais conclure, parce que le temps passe trop vite et je suis désolé d'avoir pris tant de temps, je voudrais conclure par un homme en colère dans la Bible et qui me touche beaucoup. C'est Job. Job, et vous savez, plus je lis la Bible, plus je me dis que Job est vraiment le livre le plus incroyable qui ait été écrit de tous les temps. Job qui vit ce que nous vivons parfois, où nous sommes parfois confrontés à des situations tellement graves, tellement terribles, est terrible parce qu'elle contredit ce que nous savons de Dieu, ce que nous savons de sa générosité, ce que nous savons de sa bonté. Moi, je veux bien, comme la sœur qui est partie en Thaïlande ou en Chine, en Inde, me dire que je vais être violée, que je vais être... Moi, mes scénarios sont plutôt des scénarios de paix, de plaisir et de choses bonnes. Moi, mon désir, c'est vraiment de rentrer dans le bon plaisir de Dieu. Et je sais que l'épreuve sera là, je sais que la souffrance sera là. Comment commencer à vivre avec la souffrance quand cette souffrance nous met dans des situations qui contrecarrent, qui contredisent ce que nous savons de la générosité de Dieu, de la bonté de Dieu? Et Job est exposé à cette situation. Et quand Job a tout perdu, il nous dit au chapitre 3, « Après cela, Job prit la parole et maudit le jour de la naissance, sa naissance. Et Job dit, périsse le jour où je suis né. Et la nuit qui dit, un enfant mal a été conçu, ce jour-là qu'il soit ténèbre, que Dieu ne le recherche pas de là-haut, que la lumière ne brille pas sur lui, que les ténèbres et l'ombre de la mort le réclament, que des nuées demeurent au-dessus de lui. » Et face à cette souffrance, face à cette colère que Job exprime, le sentiment d'une injustice terrible. Parce que nous connaissons le chapitre 1 et le chapitre 2 de Job, et nous savons qu'il se passe là quelque chose dans le ciel et qui nous permet de comprendre la vie de Job et la raison de ses épreuves et les enjeux de ses épreuves. Mais Job arrive dans le chapitre 3. Il n'a rien vu de tout ce qui se passe en coulisses. Et voilà la réponse de Eliphaz, un des amis de Job. Eliphaz dit, « Si l'on tente de prononcer une parole, en seras-tu lassé? Mais qui pourrait retenir ses propos? Toi, Job, tu as instruit beaucoup de gens. Tu as encouragé les faibles. Tes propos ont relevé celui qui trébuchait. Tu as affermi les genoux qui pliaient. Et maintenant qu'il s'agit de toi, tu te lasses? Maintenant que cela te touche, tu es saisi d'épouvante. Ta piété n'est-elle pas ton assurance? Ton espoir, n'est-ce pas l'intégrité de tes voix? Souviens-toi, je te prie, quel est l'innocent qui a disparu? Ou les gens droits ont-ils péri? Comme je l'ai vu, ceux qui labourent le mal et qui sèment l'oppression en font aussi la moisson. Ils disparaissent par le souffle de Dieu. Du spirituellement correct. Et je m'entends parfois dire ça aux gens, en colère. Et je m'entends être dans le rationnel avec les gens, avec des paroles qui sont remplies de piété, qui sont remplies de bonnes intentions, qui sont certainement remplies de bonnes théologies, mais qui sont autant de coups de canif dans la vie des gens. Et écoutez ce qu'en pense Dieu, Job 42. Après que le Seigneur eut dit cela à Job, le Seigneur dit à Éliphaz le Thémanite, « Je suis en colère contre toi, je suis furieux contre toi et tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi correctement, comme l'a fait Job, mon serviteur. » Un homme en colère. Prenez maintenant sept taureaux et sept béliers, le plus gros sacrifice de la loi. Allez vers Job, mon serviteur, et offrez un holocauste pour vous-même. Et Job, mon serviteur, qui parle tellement bien de moi, priera pour vous. Et par considération pour lui, je ne vous traiterai pas à la mesure de votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi correctement. Comme l'a fait mon serviteur Job. On peut dire des choses spirituellement justes sur Dieu et pourtant mal parler de Dieu. Éliphaz donc, Bilbad, Tsophar s'en allèrent, ils agirent comme le Seigneur l'avait dit et le Seigneur eut de la considération pour Job. Mais qu'est-ce que Dieu va faire avec la colère de Job? Parce que Job est aussi en colère. Vous imaginez pendant 40 chapitres entendre des gens vous asséner des paroles qui vous blessent, qui vous font souffrir et que vous avez du mal certainement à gérer, le Seigneur rétablit la situation de Job quand celui-ci eut prié pour ses amis. Et voilà que Dieu fait d'une pierre deux coups. Job, tu ne dois pas rester avec ta colère. Tu dois la traiter. Et quelle meilleure manière de traiter sa colère que de prier pour ceux qui ont été parfois compliqués avec nous. Quelle meilleure preuve d'amour on peut donner aux gens, sinon de se poser devant Dieu, entre eux et Dieu, et d'intercéder. Et de défendre leur cause. Et c'est à ce Job blessé à qui Dieu demande, tu défends la cause de tes amis maintenant, même s'ils t'ont blessé. Traitement radical de la part de Dieu. Et que ce soit la colère de Dieu à l'égard des amis de Job, que ce soit la colère qu'ils ont en eux certainement et qui doit être guérie, ou la colère de Job qui a besoin de rétablir des relations avec les gens, eh bien, le Seigneur nous invite tout le temps à traiter. Et si ça peut être par la prière, eh bien, c'est la meilleure œuvre, la plus belle preuve d'amour qu'on puisse donner à nos ennemis. Amen.